Chapitre 25. Je me trouve au rendez-vous. L'aspect misérable de la rue, lorsque nous y entrâmes, l'état de saleté et de délabrement de la maison, lorsque nous nous arrêtâmes à la porte, aurait averti bien des hommes dans ma position de se préparer à un spectacle affligeant après leur admission dans l'intérieur du logis. La première impression produite sur mon esprit par la maison me fit supposer au contraire que les réponses du petit garçon à mes questions m'avaient induite en erreur. Il m'était simplement impossible d'associer Madame Van Brandt, telle que je me la rappelais, au spectacle d'une misère aussi sordide que celle que j'avais devant les yeux. Je tirai la sonnette de la porte, persuadé à l'avance que mes informations n'aboutiraient à aucun résultat utile. Lorsque je levai la main vers la sonnette, la peur d'être battu qu'éprouvait mon petit compagnon reparut dans toute sa force. Il se cacha derrière moi et quand je lui demandai ce qu'il faisait, il me répondit confidemment « Je vous en prie, monsieur, tenez-vous entre ma mère et moi lorsqu'elle ouvrira la porte. » Une grande femme brutale répondit à la sonnette. Elle n'eut point besoin de se faire connaître. La canne qu'elle tenait à la main la désignait suffisamment pour la mère de mon petit ami. « Je croyais que c'était mon vagabond de petit garçon » s'écria-t-elle comme pour excuser la présence de la canne. « Il est parti en commission depuis plus de 2 heures. Que désirez-vous, monsieur ?» J'intercédai pour l'infortuné petit garçon avant d'entamer ma propre affaire. « Je vous prie de pardonner à votre fils pour cette fois, dis-je. Je l'ai trouvé perdu dans la rue et je l'ai ramené chez vous. » L'étonnement de la femme, en apprenant ce que j'avais fait et en découvrant son fils derrière moi, la rendit littéralement muette. Le langage des yeux, remplaçant en cette circonstance celui des lèvres, me révéla clairement l'impression que j'avais produite sur elle. « Vous me ramenez en voiture, mon moutard perdu ? Monsieur l'étranger, vous êtes fou !»« Je sais qu'une dame Brandt habite votre maison, continuai-je. » Je me trompe sans doute en l'en prenant pour une dame du même nom que je connais. Mais je désirerais m'assurer si j'ai tort ou raison. Est-il trop tard pour déranger votre locataire ce soir ? La femme recouvra l'usage de sa langue. Ma locataire est levée et elle attend ce petit imbécile qui ne connaît pas encore son chemin dans Londres. Elle souligna ces mots en menaçant de son poing musculeux son fils qui rechercha immédiatement un abri derrière les pans de mon habit. « Avez-vous rapporté l'argent ?» hurla par-dessus mon épaule à son fils caché derrière moi, cette terrible créature. « Ou bien l'avez-vous perdu, comme votre stupide petite personne ?» Le petit garçon se remontra et déposa l'argent dans la main rugueuse de sa mère. Elle le compta avec des yeux qui s'assurèrent durement que chaque pièce était de bon aloi, et elle s'adoucit alors en partie. « Montez » grommela-t-elle en s'adressant à son fils. « Et ne faites pas attendre la dame plus longtemps !» Elles sont à moitié mortes de faim, elle et sa fille, continua la femme en se tournant vers moi. « La nourriture que mon garçon leur apporte dans son panier sera le premier aliment que la mère aura touché aujourd'hui. Elle a engagé maintenant tout ce qu'elle possédait, et je ne saurais dire ce qu'elle va devenir si vous ne venez pas à son secours. Le médecin fait ce qu'il peut, mais il m'a dit aujourd'hui que si elle ne se nourrissait pas mieux, ce n'était pas la peine de l'envoyer chercher. Suivez mon garçon et voyez vous-même si c'est la dame que vous connaissez. » J'écoutais la femme, toujours persuadée que j'avais agi sous l'empire d'une illusion en venant chez elle. Était-il possible d'associer le charmant objet du culte de mon cœur à la misérable histoire de dénuement que je venais d'entendre? J'arrêtai le petit garçon au premier étage pour le prier de m'annoncer simplement comme un médecin qui, informé de la maladie de Madame Brandt, était venu pour la voir. Nous montâmes au second étage, puis au troisième. Arrivé maintenant au haut de la maison, le petit garçon frappa à la porte la plus proche de nous sur le palier. Nulle voix intelligible ne répondit. Il ouvrit la porte sans cérémonie et entra. J'attendis dehors pour écouter ce qu'on allait dire. La porte resta entrebâillée. Si, comme j'étais disposé à le croire, la voix de Madame Brandt était celle d'une étrangère, j'étais décidé à lui offrir délicatement tous les secours en mon pouvoir et à retourner immédiatement à mon poste, à l'ombre de Saint-Paul. La première voix qui s'adressa au petit garçon était celle d'un enfant.
« J'ai bien faim, j'ai bien faim !»«
Tout va bien, mamselle, je vous apporte quelque chose à manger. »«
Dépêchez-vous, Jemmy, dépêchez-vous !»
Après un moment de silence, j'entendis de nouveau la voix du petit garçon. « Voici une tartine de pain et de beurre, mamselle. Il faut attendre que j'aie fait cuire votre œuf. Ne mangez pas trop vite pour ne pas vous étouffer.
Qu'est-ce qu'a votre maman ? Dormez-vous, madame ?»
Je pus à peine entendre la réponse, tant était faible la voix qui murmura ce seul mot.
« Non !»
Le petit garçon reprit la parole.
« Courage, madame ! Il y a là un médecin qui désire vous voir !»
Cette fois, pas de réponse intelligible. Le petit garçon vint à la porte.
« Entrez, monsieur, je vous prie, je ne puis rien en tirer !»
Hésiter plus longtemps à entrer dans la chambre eût été d'une délicatesse déplacée. J'entrai donc. Au bout opposé d'une chambre à coucher misérablement meublée, gisait, faiblement étendue dans un vieux fauteuil délabré, une de ces milliers de créatures délaissées qui mouraient de faim cette nuit-là dans la grande cité. Un mouchoir blanc lui couvrait la figure, comme pour l'abriter de la flamme du feu allumée près d'elle. Surprise à mon entrée dans la chambre, par le bruit de mes pas, elle enleva le mouchoir. Je la regardai, et dans ce visage pâle, livide, cadavéreux, je reconnus celui de la femme que j'aimais. Pendant un moment, l'horreur de cette découverte me rendit défaillant et me donna le vertige. Un instant après, j'étais agenouillé près de son fauteuil, mon bras l'entourait et sa tête reposait sur mon épaule. Elle ne pouvait ni parler ni pleurer, elle tremblait silencieusement et c'était tout. Nulle parole ne sortit de mes lèvres, nulle larme ne vint me soulager. Je la pressai contre moi et elle se laissa faire. L'enfant qui dévorait son pain et son beurre près d'une petite table ronde et le petit garçon qui attisait le feu à genoux devant le foyer nous regardaient en ouvrant de grands yeux. Et les minutes s'écoulaient lentement et l'on n'entendait dans la chambre que le bourdonnement d'une mouche dans un coin. Les instincts de la profession que j'avais embrassée, plutôt que le sentiment réel de la situation dans laquelle je me trouvais placée, me réveillèrent enfin. Elle mourait de faim. Je le vis dans la couleur mortelle de sa peau, je le sentis dans la faiblesse, la rapidité et l'irrégularité des battements de son pouls. J'appelai le petit garçon et je l'envoyai chercher du vin et des biscuits à la taverne la plus voisine. « Dépêchez-vous, lui dis-je, et je vous donnerai plus d'argent que vous n'en avez jamais eu dans votre vie. » Le petit garçon me regarda et dit en tapant la monnaie qu'il avait dans la main « Quelle chance !» Et il sortit de la chambre en courant comme jamais petit garçon ne courut. Je me tournai pour adresser à la mère mes premières paroles de consolation. Les cris de l'enfant m'arrêtèrent.
« J'ai bien faim ! J'ai bien faim !»
Je plaçai quelque nourriture devant l'enfant affamé et je l'embrassai. Elle me regarda avec des yeux étonnés.
« Êtes-vous un nouveau papa ?» demanda la petite créature. « Mon autre papa ne m'embrasse jamais !»
Je regardai la mère. Ses yeux étaient fermés, les larmes coulaient lentement sur ses joues pâles et amincies. Je pris sa main frêle dans la mienne. « De meilleurs jours vont venir, lui dis-je. Vous êtes maintenant sous ma garde. » Point de réponse. Elle frémit encore silencieusement et ce fut tout. Le petit garçon revint en moins de 5 minutes et gagna ainsi la récompense promise. Il s'assit sur le parquet près du feu pour compter son trésor, seule créature heureuse dans la chambre. J'ai mietté dans du vin quelques morceaux de biscuits et je ranimai peu à peu les forces défaillantes de Madame Van Brandt en lui administrant par intervalles un peu de nourriture sous cette forme prudente. Au bout d'un certain temps, elle leva la tête et me regarda avec des yeux étonnés, pitoyablement pareils à ceux de son enfant. Une faible et délicate rougeur commença à apparaître sur son visage. Elle me parla pour la première fois d'une voix sourde que je pus entendre en m'asseyant près d'elle.
« Comment m'avez-vous trouvé ? Qui vous a indiqué le chemin pour venir ici ? » Elle s'arrêta pour se rappeler péniblement quelque chose dont la mémoire était lente à lui revenir. Sa rougeur augmenta, elle avait retrouvé son souvenir perdu et elle me regarda avec une curiosité timide.
« Qui vous a amené ici » demanda-t-elle. « Est-ce mon rêve ?»«
Attendez, très chère, que vous soyez plus forte et je vous raconterai tout. » Je la soulevai doucement et je la déposai sur son misérable lit. L'enfant nous suivit et, grimpant avec mon aide sur la couchette, elle se blottit près de sa mère. J'envoyais le petit garçon prévenir la maîtresse de la maison que je resterais près de ma malade toute la nuit pour surveiller les progrès de sa guérison. Il sortit en faisant tinter joyeusement son argent dans sa poche. Nous restâmes seuls tous les trois. Pendant les longues heures qui suivirent, Madame Van Vand tomba, par intervalles, dans un sommeil interrompu dont elle se réveillait en sursaut pour me regarder d'un air effaré, comme si j'avais été un étranger, assis près de son lit. Vers le matin, la nourriture que j'avais continué à lui administrer prudemment amena un changement favorable dans son pouls et la disposa à un sommeil plus tranquille. Lorsque le soleil se leva, elle dormait aussi paisiblement que l'enfant placé à ses côtés. Je pouvais donc la laisser jusqu'à mon retour dans la journée sous la garde de la femme de la maison. La magie de l'argent transforma cette brutale et terrible personne en une garde-malade si docile, si attentive et si avide de suivre mes instructions qu'elle me pria de les lui donner par écrit avant de partir. Je m'attardai encore un moment, seul, près du lit de la dormeuse, afin de m'assurer, pour la centième fois, avant de la quitter, que sa vie était hors de danger. Ce fut la plus douce des récompenses que d'en être certain, que d'effleurer légèrement de mes lèvres son front rafraîchi, que de regarder et de contempler encore ce pauvre visage délabré, toujours cher, toujours beau à mes yeux, si changé qu'il fût. Je fermai doucement la porte et je sortis par une brillante matinée, une fois encore heureux, tellement près l'une de l'autre coulent dans la vie humaine les sources de la joie et de la douleur. Si rapprochée du nuage le plus sombre, se trouve dans notre cœur, comme dans notre ciel, la clarté du soleil la plus brillante.